20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
Il est 20h et nous sommes en mesure de vous donner nos estimations, estimations IFOP fiduciales qui montrent, vous allez le voir, une très forte poussée pour le Front National, 25% pour le Front National.
Le fait politique majeur de ce dimanche électoral, c'est donc la poussée du Front National, baptême du feu électoral retentissant pour Marine Le Pen. Retentissant.
Vous allez les chercher où, ces électeurs?
Je vais les chercher auprès du peuple français.
Derrière Marine Le Pen, 19%.
C'est un score historique qu'a réalisé le Front National lors du premier tour des élections régionales en France.
Au premier tour, c'est phénoménal. Historique. Vous l'avez gagné un moment, on va faire quoi?
Aujourd'hui, il faut quand même admettre une chose. Qui est le parti qui, depuis des années, alerte et se positionne contre l'islamisme? Qui est le parti qui prône la tolérance zéro?
Le parti de Marine Le Pen.
Une évolution dont le Front National est le principal bénéficiaire.
Jubile.
Henri Mallaire, je suis content de te retrouver. Je vais te présenter en un mot, Acrimed. Voilà. Acrimed, Action Critique Média, qui depuis plus de 10 ans maintenant.
Ah, depuis 1996.
Depuis 1996, fait de la critique de médias. Tu en as été longtemps l'un des éminents animateurs.
Oui.
Maintenant,
enfin, éminent, je ne sais pas, mais animateur.
Animateur, oui. Et maintenant, tu as pris un peu de recul, mais tu continues de bosser pour Acrimed. Et là, je t'ai demandé de venir parce qu'une question qui se pose à nouveau ces jours-ci, ces temps-ci, c'est le lien entre les médias et le Front National. Est-ce que les médias ont fait le Front National ou bien est-ce que c'est le Front National qui a fait les médias? C'est une question qui a une trentaine d'années. Hein. Acrimed n'était pas né que la question se posait et qu'on donnait des réponses qu'on a oubliées puisque la mécanique a continué de fonctionner. Or, vous vous êtes appliqué chez Acrimed à étudier la question de près et à donner des éléments d'analyse et de réponse à cette question effectivement très importante. Voilà pourquoi je t'ai demandé de venir nous éclairer, mon cher Henri.
Je ne sais pas si je vais éclairer beaucoup, mais enfin, je crois qu'il y a une première chose qu'il faut dire, c'est que l'indignation impuissante face à la montée du Front National, son implantation, a souvent comme conséquence de rendre les médias responsables ou d'en faire des médias les principaux responsables de cette montée. Et donc, curieusement, de dissimuler, et c'est au nom de la critique des médias que je dis ça, le fait que les principales causes de la montée du Front National, c'est la crise économique, sociale et politique.
Donc tu blanchis les médias, c'est pas de la faute des
pas
médias.
Pas tout à fait, pas tout à fait.
Pas
mais,
tout de suite.
Mais c'est vrai qu'en disant ça, on donne l'impression de se tirer une balle dans le pied, puisque ce qui dit critique des médias peut laisser penser que nous rendons les médias responsables de tout. Eh bien non. Ils jouent un rôle très important, mais secondaire.
De façon générale, pas seulement concernant le Front National.
Pas seulement concernant le Front National. C'est-à-dire que ce n'est pas un rôle innocent, bien entendu. Hein, mais ce n'est pas un rôle qu'ils jouent seuls. Le pouvoir des médias, tous les éléments de sociologie de la réception le montrent, le pouvoir des médias n'est pas un pouvoir autonome, c'est un pouvoir conjugué avec d'autres pouvoirs. En l'occurrence, par exemple, avec le pouvoir politique, voilà, ou avec les pouvoirs économiques. C'est un pouvoir d'accompagnement, d'incitation, d'accélération, tout ce qu'on voudra.
Ou de marginalisation.
Ou de marginalisation.
On ne traite pas ce sujet.
Absolument.
Voilà.
Ils ne sont pas tout puissants, et de toute façon, ils ne sont pas puissants tout seuls. Alors, quel pouvoir ils ont ? Si on regarde simplement la séquence, comme on dit, qui vient de s'écouler, c'est pas compliqué. Ils ont un pouvoir de focalisation sur les jeux politiques plutôt que sur les enjeux politiques qui est absolument extraordinaire.
Focalisation sur les jeux plus que sur les enjeux.
Absolument. Mmh. Et là, la focalisation sur les jeux, ça consistait à faire quoi ? Pendant des mois, à focaliser les enjeux des élections régionales sur la question du Front National. C'est-à-dire que les gardiens de l'espace médiatique, ceux que parfois on appelle les chiens de garde, les petits comme les gros, les toutous comme les molosses...
Ils adorent ça quand même.
Oui. Ils sont en train de commencer à faire leur bilan critique, c'est-à-dire c'est à peu près la chose suivante, comment dire ça, comme si on demandait à des chauffards ivres impliqués dans un accident de la route de faire un examen de confiance alors qu'ils n'ont pas encore dessoulé. Et ils ont déjà commencé à dire, mais non, c'est pas nous, c'est un peu nous, c'est pas beaucoup nous. Bon, évidemment, ce n'est pas sérieux.
Mais toujours plaisir quand on invite à Crimel, on est sûr de se faire des amis, quoi, parmi les collègues, voilà.
C'est garanti. Oui, non, mais on n'est pas détesté systématiquement. Hein,
oui, et pas systématiquement.
Donc, ils ont eu ce pouvoir de focalisation. Alors, cette focalisation, elle consiste en quoi? Il y a d'abord l'exposition et le temps de parole du Front National. Ils se défendent là, nos chiens de garde, en disant non, non, les temps de parole du Front National n'ont pas été excessifs comparés à ceux des Républicains ou, ou du Parti Socialiste. Par contre, et ça ils ne le disent pas, parler du Front National, mettre l'accent sur le rôle du Front National, sur les scores du Front National, sur les enjeux du Front National, ça, oui, ça a occupé une place absolument disproportionnée. Il y a une mini-enquête dont la tonalité, la teneur n'est pas encore très claire, réalisée par l'Argus de la Presse, qui vient de sortir. Il y a eu 9 000 environ, hein, entre 9 et 10 000 présences du Front National. On a parlé 9 000 fois du Front National pour à peu près 3 000 pour Valérie Pécresse, 2 000 pour je ne sais trop quel socialiste et presque rien pour tous les autres.
Dans le cadre de la campagne.
Dans le cadre de la campagne.
Mais à t'en parler, c'est-à-dire on l'a juste cité ou bien
on l'a problématisé, etc. Et en plus, cette comptabilité ne tient pas compte des moments et des contenus.
Alors pourquoi cette prééminence du Front National? Pourquoi est-ce qu'on en parle plus que des autres partis?
Mais la première raison, c'est que le microcosme médiatico-politique est fermé sur lui-même et donc s'intéresse aux jeux politiques et médiatiques et non pas aux enjeux. Donc on parle du Front National sans parler du programme du Front National. Ça, c'est une première chose, mais ce n'est pas la plus importante. Peut-être que la question la plus importante, c'est la légitimation du Front National à travers la légitimation des problèmes tels que le Front National les pose. C'est-à-dire que si on accepte de poser le problème de l'immigration en disant que c'est un problème qui est posé aux Français, non pas d'abord un problème qui est posé aux immigrés, dès qu'on pose des problèmes tels que le Front National les pose, alors évidemment les solutions du Front National gagnent en crédit auprès d'une partie de la population et notamment de la population la plus fragilisée. Bon. Et ça, c'est l'effet conjugué, il faut le dire, non seulement de ce que font la plupart des journalistes, du moins ceux qui tiennent les micros et ceux qui rédigent les éditoriaux, mais c'est également ce que font les principales forces politiques. Donc on a bien là le jeu conjugué de deux pouvoirs, le pouvoir médiatique, si on veut l'appeler comme ça, et le pouvoir politique, qui en acceptant de poser les problèmes tels que les pose le Front National, légitime de facto le fait que, à défaut d'être juste, elles sont au moins audibles et rendues audibles. Je donne un simple exemple, une simple illustration toute bête. Quand on entend beaucoup d'électeurs du Front National dire... avec ce qu'on entend et avec ce qu'on voit, alors, etc., etc., qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit? On entend et ce qu'on voit, ce que les médias exposent, montrent, mettent en épingle. Quand on dramatise des situations dramatiques, en boucle, quand on dramatise des faits divers, quand on dramatise la question de l'immigration, qu'on ne donne pas les véritables chiffres, qu'on ne répond pas au Front National quand il expose des choses fausses, du moins dans les grands médias audiovisuels. La presse écrite, que d'ailleurs plus personne ne lit beaucoup, ne fait pas systématiquement ça. Ça serait injuste de dire ça. Libération, Le Monde, mettent de temps en temps les choses au point. Mais, l'ouvrier au chômage d'Hénin Beaumont, il ne lit pas Le Monde ou Libération. Par contre, il suit les grands médias, et les grands médias, c'est... pour l'instant encore, les radios et les télés, c'est pas encore tout à fait Internet, Yahoo et compagnie.
Et Marine Le Pen est l'invitée ce soir du 19-20. Bonsoir Marine Le Pen, bonsoir. Merci d'être notre invitée.
Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin.
Bonsoir Marine Le Pen, merci beaucoup d'être en direct avec nous.
Merci.
Merci beaucoup.
Bienvenue Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être là.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la fascination qu'a exercé, ou qu'on continue d'exercer d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, par exemple, qui a un talent fou, qui est un tribun absolument formidable, un camelot absolument formidable, et c'est le bon client. On est sûr, quand on fait venir Jean-Marie Le Pen, ou qu'on fait venir maintenant sa fille, on va faire de l'audimat, on va faire du buzz. C'est garanti. C'est le méchant, c'est celui que certains vont aimer, haïr, et que les autres vont approuver, admirer, etc. Il y a ces personnages qui sont assez formidables.
Ça joue un rôle, c'est-à-dire qu'il y a le culte de l'audience. Et le culte de l'audience, on sait ce que ça donne. On fait de l'audience pas seulement en disant du bien du Front National. On peut faire de l'audience en disant du mal du Front National. Le problème n'est pas savoir si on en dit du bien ou si on en dit du mal, mais qu'est-ce qu'on en dit ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne à entendre, non seulement dans les émissions où le Front National est présent, ou bien dans les émissions où il est question du Front National, mais sur l'ensemble des problèmes économiques et sociaux dont le Front National s'est emparé.
C'est exactement ce que dit Le Pen dans un entretien avec Valeurs Actuelles. Moi aussi, j'ai mes lectures.
C'est bien.
Il explique, on s'en fout complètement qu'on dit du mal ou du bien de nous, l'important, c'est qu'on parle de nous. Et il tient cette politique de communication depuis de bien belles lurettes, au moins depuis le début des années 80.
Oui, oui, mais c'est la logique de la publicité, c'est l'essentiel.
Absolument.
L'essentiel, c'est qu'on en parle. Mais c'est l'essentiel et qu'on en parle, et qu'on en parle pour le critiquer ou non, dans le langage qui est celui de l'interlocuteur. Si on en parle dans le langage de Marine Le Pen, pour accréditer... Je prends les deux exemples les plus simples, c'est-à-dire le discours tenu sur la sécurité ou sur l'immigration, on a tout bon. Je donne un exemple. Tu ne mets pas en cause le Front National directement, hein, mais indirectement, qui le sert énormément. À la suite des attentats, dans les chaînes d'information en continu, c'est-à-dire de désinformation en continu, mais aussi dans les 20 heures, dans l'émission de Pujadas, des paroles et des actes, etc., etc. Donc on a analysé la première émission des paroles et des actes après les attentats, c'était consternant. Toutes les questions qui étaient posées aux experts en sécurité, ou pseudo-experts en sécurité, parce qu'ils se sont mis à proliférer et à occuper tous les plateaux, c'était « mais il y a eu des failles ». Alors, évidemment, il y a des failles, comme on dit. Les failles en question, il y en aura toujours. Mais si on veut colmater les failles, eh ben, il faut écouter ce que dit Marine Le Pen, c'est-à-dire empêcher toutes les failles. Et pour empêcher toutes les failles, il faut empêcher l'immigration, il faut ne pas respecter le droit d'asile, etc., etc. Quand, en plus, des responsables politiques, et là je dis des choses qui dépassent peut-être ce que Acrimed, en tant qu'association de critique des médias, pourrait dire, mais enfin, quand des responsables politiques entonnent la même démagogie, je donne un simple exemple, privé de nationalité. La déchéance de nationalité. Enfin, c'est un gadget absolument épouvantable. Sur le plan des principes, c'est insoutenable. Mais laissons même les principes de côté, puisque, de toute façon, ils volent en éclats depuis belle lurette. Vous imaginez des fanatiques prêts à mourir pour leur propre cause, qui seraient dissuadés parce qu'ils risquent de perdre la nationalité française ? C'est évidemment absurde. Eh bien, on en fait des tonnes sur ce sujet. Et qui en fait le mieux sur le sujet ? Le Front National. Et on pourrait multiplier comme ça tous les exemples de cette façon de légitimer la façon qu'a le Front National de poser les problèmes. Alors, si on pose des problèmes comme il les pose, peut-être il peut apparaître à toute une série de gens que les meilleures solutions, parce que ce sont les plus radicales, ce sont celles que le Front National propose.
Vous écoutez Europe 1, il est 8h26.
Bienvenue, Marine Le Pen, bonjour, merci d'être là. Vous avez entendu Nicolas Sarkozy à Rochefort. Il s'en prend aux dirigeants, au programme du Front National, il tend la main à vos électeurs. Le vote pour le Front National, a-t-il dit, n'est pas un vote contre la République, il n'est pas immoral.
Oui, mais écoutez, ils sont tous la caricature d'eux-mêmes. Voilà. Honnêtement, c'est une bande de fauchetons, il faut dire les choses maintenant, qui changent d'avis en fonction de leurs propres intérêts, qui sont capables de dire tout et l'inverse de tout. Moi, j'entendais il y a quelques mois Nicolas Sarkozy appeler à la guerre contre le Front National avec des propos qui étaient directement tirés de la bouche de
SOS. Formidable, maintenant, il dit qu'on peut voter pour le Front National avec bonne conscience.
Mais oui, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là ? Quelles sont leurs convictions ? Moi, j'entends Nicolas Sarkozy.
Il découvre les réalités.
Non, mais
est-ce que si près du scrutin, pour gagner et peut-être pour vous affaiblir, Nicolas Sarkozy et son état-major ne veut pas siphonner les votes Front National, les électeurs, est-ce qu'ils seront tentés ?
Il peut toujours
essayer. Est-ce qu'ils seront tentés, vos électeurs ?
Henri Mahler, Acrimed, 1996. Oui. Vous suivez jour après jour les médias pour les critiquer. Mais dans l'histoire générale, plus ample des médias, est-ce qu'on a des moments, par rapport à ce genre de phénomène, où les médias, la presse, parce que les médias c'est un mot récent, hein, la presse a su garder une meilleure distance et a su expliquer les choses d'une façon plus, disons, citoyenne, émancipatrice, etc. Ou bien est-ce que ça a toujours été ça ?
Je pense que la presse, les médias ont toujours joué un rôle ambivalent. Alors, il y a le récit qui est le récit héroïque. le récit héroïque, ce sont les médias, non seulement accompagnant les progrès quand il y en avait de la démocratie sociale et politique, ou même carrément créateurs de démocratie. C'est pour partie une légende. Ils sont, d'un autre côté, les produits de la façon dont vit l'espace démocratique ou vit l'espace politique. Quand cet espace politique est saturé par des faux problèmes et des fausses solutions, ils peuvent toujours essayer de crier dans leur coin. Ils jouent un rôle de contre-pouvoir, mais de contre-pouvoir finalement assez limité. Et ce contre-pouvoir est d'autant plus limité que, alors là je vais sortir les gros sabots, hein, que des médias qui sont la propriété de grands groupes privés, il y a peu de chances qu'ils soient des médias d'émancipation.
Alors, faisons un saut dans le temps, revenons à aujourd'hui, ces temps derniers. Y a-t-il parmi les... ce que vous observez, c'est-à-dire vous passez votre temps à observer tout ça, des journalistes, des émissions qui vous semblent avoir fait le boulot?
Oui, il y a des médias qui sont de la critique en acte des médias dominants. Mmh. Ça existe. Ce sont les médias associatifs, dont on parle peu, mais qui, sur le terrain, jouent un rôle tout à fait important, tout à fait significatif. Ce sont aussi les médias indépendants, comme le sont, sans faire de distribution des prix, Le Monde Diplomatique, Basta, Mediapart. Là-bas, si j'y suis.
Bien sûr, bien sûr.
Et Acrimed, avec les forces et les moyens qui sont les nôtres.
Oui, ça, c'est l'alouette, hein, c'est pas le cheval.
Et donc, les gens doivent se faire un cadeau pour Noël, ils doivent s'abonner à La Base, si j'y suis, et adhérer à Acrimed.
Voilà.
Voilà. Bon, c'était ma page de pub. Mais bon,
non, c'est la nôtre aussi, c'est parfait.
Je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ces médias, chacun choisira celui qu'il préfère, peu importe, mais ces médias jouent un rôle tout à fait important. Ce sont eux les vrais médias de résistance. Ça ne veut pas dire que dans les colonnes des différents journaux, ou dans telle ou telle émission de radio ou de télé, on n'entend pas des voix discordantes. Hein ? Et voilà, c'est pas un univers en noir et blanc. J'ai souvent, moi, à titre personnel, souhaité qu'on ouvre sur le site d'Acrimed une rubrique « Un autre journalisme est possible, la preuve c'est qu'il existe déjà ». Et où on saluerait de temps en temps un excellent article du Figaro, une très bonne émission sur France Télé, comme par exemple Caché Investigation, qui temps en temps fait des émissions
tout à fait bien.
Discutables, c'est-à-dire qu'il mérite d'être discuté, ce qui n'est pas le cas du reste. Hein. Donc oui, il y a cette forme de résistance-là. Et sous cette forme, elle a toujours existé. Ça a été des médias différents qui ont joué ce rôle.
Merci beaucoup.
Ça veut dire que essayer le Front National, c'est l'adopter.
Merci vous. Marine Le Pen, bonsoir.
Jean-Marie Le Pen persiste ses signes, il assume ses propos sur la Seconde Guerre mondiale, on en parlait hier. La condamnation est unanime, mais teintée aussi d'une interrogation. S'agit-il d'une stratégie délibérée et dans ce cas, faut-il en parler ?
Faut-il en parler ?
Bonsoir Marine Le Pen, merci.
En parler ?
L'évoquer, c'est remettre une fois de plus le Front National au centre des débats.
Henri, là, on dirige une école de journalisme. On a des élèves qui sont là autour de nous, qui sont pleins de bonne volonté, pleins de vigueur et qui ont envie d'en découdre avec la mémoire d'Albert Londres ou des Muckrakers américains. Et ils ont fait venir Henri Mahler. Ils disent à Henri Mahler, Monsieur Henri Mahler d'Acrimed, dites-nous un peu comment on doit s'y prendre pour traiter la question du Front National. Voici la réponse d'Henri.
T'es vraiment dur. Écoute, pour ce qui dépend des médias, les jeunes journalistes vont avoir du problème. Il faut qu'ils croûtent, hein, donc il faut qu'ils trouvent un employeur. L'essentiel, c'est l'enquête. C'est faire en sorte que ce ne soit pas le journalisme politique, c'est-à-dire le journalisme politicien, qui domine la scène médiatique.
C'est pourtant ceux qui ont le plus de prestige à l'intérieur d'une rédaction.
Absolument. Oui. Quand sur BFM TV, les interlocuteurs pour commenter l'actualité politique, ce sont des lumières comme Jacques Séguéla que l'on invite. Maintenant, on invite les communicants. Alors, avant, on se contentait d'inviter les sondologues.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion, Jacques Séguéla?
Bon, d'abord, c'est le dernier warning avant l'écrasement au sol. Donc, je pense que les politiques vont réfléchir.
Alors, on a droit à des discussions entre des sondologues et des communicants pour commenter l'actualité politique. Ça, c'est sur les chaînes en continu. On fait à peu près la même chose dans les quelques émissions, grandes émissions de débat, qui existent en télévision, dans les chaînes généralistes, en l'occurrence France 2, parce que TF1, ça fait belle lurette qu'ils s'occupent pas de choses aussi peu importantes.
Derrière Marine Le Pen.
Donc, première chose, c'est l'enquête. Enquêter sur le terrain. Pas simplement faire trois micro-trottoirs et Hénin Beaumont pour que je puisse commenter à mon tour les micro-trottoirs en question.
Pour revenir à ce que tu disais.
Qui n'est pas la même chose que le journalisme d'investigation sur les grands scandales économiques et financiers. Je pense que le journalisme d'enquête sociale devrait occuper une place plus importante que celle qu'occupe parfois, et parfois avec beaucoup de bonheur, le journalisme d'investigation sur les scandales politico-financiers.
Et si ça avait été fait, et si on le fait, tu penses que, pour revenir à notre sujet, c'est-à-dire le Front National, on pourrait de cette façon, on peut de cette façon, décrire mieux les motivations des électeurs du Front National?
Mais d'abord, on commencerait par donner des armes à ceux qui le combattent. C'est-à-dire, comment combattre le Front National quand on a comme arme pour comprendre la réalité sociale en France, les problèmes qui s'y posent, la façon dont ils sont vécus, quand on a comme arme, s'agissant de l'espace médiatique, hein, je ne parle pas des ouvrages de sociologie un peu sérieux, il y en a quelques-uns quand même, bon, quand on a comme arme le discours politico-politicien des commentateurs d'actualité. Ce que font un certain nombre de ces médias dont je disais qu'ils étaient une critique en acte des médias dominants. Ensuite, il faut faire un inventaire, mais là, c'est une discussion ouverte. Et très franchement, c'est pas moi qui vais m'amuser à leur donner des conseils. Hein. Ça serait d'une outrecuidance rare et je m'en passerai. Mais ça serait d'abord ça. Ça ne suffirait pas. Parce que, évidemment, il faut trouver les moyens d'atteindre, pour autant que cela dépende des médias, les catégories populaires qui sont aujourd'hui touchées frontalement par la propagande du Front National parce qu'ils sont socialement désarmés. Désarmés par rapport à ce qu'ils vivent. Bien. Et s'il y avait un tout petit peu moins de mépris social dans les grands médias, peut-être que ça irait mieux. Parce que quand le peuple, c'est simplement une denrée de micro-trottoir, où on lui demande d'exposer ses plaies en réservant à nos grands politologues le soin d'expliquer quelles sont les meilleures solutions, ça irait un peu moins mal.
Et pourtant, les médias dont tu parlais tout à l'heure...
Oui, je m'en citais d'autres.
Hein, Basta, le Diplo, Acrimed, etc. La langue qui est parlée par ces médias-là, qui sont effectivement sérieux, honnêtes, etc., elle n'est pas grand public.
Non.
Elle n'est pas grand public. Elle s'adresse, le Diplo, à une élite, les autres à une classe moyenne supérieure éduquée, etc. Dans les exemples que tu cites, je ne vois pas de médias populaires qui cherchent à s'adresser vraiment à un très grand public. Si j'ouvre Le Parisien, ce que tu ne dois pas manquer de faire chaque matin avec ton café, j'ai des articles qui s'adressent à un grand public, qui sont bien faits, qui sont courts parce que, effectivement, j'ai pas un temps. Enfin, moi, j'ai un peu de temps, effectivement, comme toi, c'est mon boulot. Mais la plupart des gens, ce n'est pas leur boulot. Hein. Et je vois des articles courts qui sont bien foutus, qui sont bien informés. Voilà, j'ai pas l'équivalent dans l'esprit, disons, dans la ligne éditoriale de la presse que tu viens de décrire. Comment se fait-il que cette presse, la nôtre, disons, nos médias, qui correspondent à une vision du monde, une manière de voir qui est la nôtre, n'arrive pas à faire de grands médias populaires?
Bah écoute, je crois que tu as donné une grande partie de la réponse. Hein. C'est que ce sont des médias qui s'adressent à des minorités, à la fois sociales et politiques. Au sens large, hein. Je ne dis pas minorité partisane, je dis minorité politique. Et des minorités politiques en voie de minorisation, ce qui n'arrange pas les choses. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je crois, on pose trop peu souvent la question « que faire pour qu'il y ait des médias effectivement populaires ?» Alors, pourquoi on ne la pose pas? Parce que... quand on est confronté à des monstres, si j'ose dire, et d'ailleurs j'ose le dire, comme le sont les grandes chaînes de télévision ou les grandes chaînes de stations de radio, inféodés à l'audimat, prêts à faire tout et n'importe quoi pour garder de l'audience, sans se poser réellement des problèmes de qualité, etc. En situation, quand il s'agit du secteur public avec le secteur privé, donc qui se bat de la même façon que lui, sur le même terrain, avec quelques éléments de démarcation qu'il ne faut pas négliger. Hein, France 2, c'est pas TF1. Bon, il y a quelques éléments de démarcation. Quand on est confronté à de tels monstres, on ne songe pas à se demander s'ils pourraient être différents, eux. C'est ça, le vrai problème. Le vrai problème, il est politique. C'est est-ce qu'il est possible d'avoir des grands médias de masse ? On reste sur les grands médias traditionnels. Il faudrait ajouter les évolutions liées à Internet. Mais restons sur la génération précédente. On se pose très peu cette question-là. Oui. Il y a un sociologue, je le nomme Vincent Goulet, qui a fait une étude sur la réception de l'information dans les quartiers populaires. C'est une des études sociologiques les plus dérangeantes que je connaisse. Enfin, c'est une des rares qui récemment m'est dérangée. Parce qu'elle m'a donné à comprendre, et je pense à mes petits camarades et mes petites camarades d'Acrimède, à ceux qui l'ont lu et ceux qui l'ont suivi, un regard un peu différent sur la réception de l'information dans les quartiers populaires. Et il a essayé de formuler ce que pourrait être un média d'audience populaire dans un article que je ne peux pas réciter par cœur. Il a essayé de faire ça, mais la contrainte la plus terrible, c'est que pour qu'il en aille différemment, il faudrait que les formes d'appropriation et de contrôle des médias soient radicalement différentes. Et on est loin du compte. Oui. Et ça, c'est à la fois la partie la plus importante, me semble-t-il, du combat modeste, mais tenace, que mène Acrimède, et c'est sans doute celle qui est la moins connue et la moins visible, c'est-à-dire des propositions de transformation de l'ensemble du paysage médiatique.
Voilà. Et ça explique, ça nous ramène à notre sujet, ça peut expliquer en partie le développement du Front National, de l'électorat du Front National, ou bien de l'abstention. C'est quand même le parti des abstentionnistes qui est le premier parti en France.
Oui, mais là encore, ce ne sont pas les médias qui en sont responsables.
Oui, oui.
Il faut toujours le redire, parce que, notamment dans cette minorité à la fois sociale et politique, la tentation peut être très grande par exaspération de dire c'est la faute aux médias. Non, n'oublions pas que ce qui est faible, je vais dire nous, de façon très large, sans discrimination politique a priori, ce qui est faible, ce sont les capacités de résistance sur le terrain, c'est-à-dire la situation sociale dans laquelle se trouve la France et la situation dans laquelle se trouvent les forces syndicales et les forces politiques en mesure de contester la politique dominante et la part qui prennent les médias dominants.
Moi, je crois qu'il y a deux ninis. Il y avait un nini de circonstance. Ils sont très gentils de dire, une fois qu'ils ont gagné sans le nini. S'il n'y avait pas le nini, la droite n'aurait pas fait le score qu'elle a fait. Parce que
en
tout
PACA
monde
et en Nord-Pas-de-Calais, s'il y avait eu le nini, dessus, n'aurait pas gagné.
Mais c'est quand même le vainqueur, la vainqueur, je ne sais pas comment on peut dire, de cette compétition.
Elle arrive à le faire.
Marine Le Pen, elle est toute seule, a réuni quand même 42,3%.
Sans l'aide de personne.
Sans l'aide de personne.
Alors Marion Maréchal Le Pen a déclaré il y a quelques jours « Nous avons gagné la bataille des idées ». Je pense qu'elle a raison.
J'étais récemment avec des salariés de Goodyear, enfin d'ex-salariés de Goodyear, des gars qui se sont fait licencier. Il y avait un meeting avec un de leurs leaders de la CGT. Et on a fait un entretien, et à un moment, c'est Michael Wamin, pour le citer, qui me dit, mais je te vois là, t'es un peu nerveux, tu voudrais bien savoir si, parmi les gars qui sont là, parce qu'ils étaient tous autour de nous, s'ils votent pour le Front National. C'est ça la question que tu veux poser. Alors j'ai dit, écoute, ouais, absolument. J'y pense depuis tout à l'heure, je me demande comment je vais l'amener, ma question. Mais il dit, ben voilà, les gars qui sont autour de nous, la moitié votent pour le Front National. Voilà. Ouais. CGT, on était avec la CGT. J'ai discuté avec les gars ensuite. J'ai dit, mais alors vous votez pour le Front National ? Oh, bah ouais, mais non, mais pas. Enfin, peut-être, voilà. Bon, mais oui, voilà. Et pourquoi vous votez pour le Front National ? Ah, bah parce que, on sait pas, écoute, voilà, n'importe comment, ça peut pas être pire. Et puis on l'a pas essayé. Et puis c'est une femme, hein, vous les gars, là, les gauchistes. Là. C'est une femme, hein, bon, bah, ok. Je dis, mais attendez, mais vous avez Mélenchon quand même. Ah oui, non, mais il est bien Mélenchon, il est bien, il est bien. Mais il parle comme Victor Hugo, quoi, on comprend rien, il parle comme Victor Hugo. Ah bon, d'accord. Et alors, tandis que Marine, vous comprenez. Ah ouais, 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 là on comprend ce qu'elle dit, elle au moins. On... Et puis lui, c'est un grand bourgeois, et elle, c'est pas une bourgeoise. Mais pas pareil, etc. Là, on sort du sujet des médias. Mais il y a quand même une approche, il y a quand même une communication, une façon d'être et de communiquer et de s'exprimer qui a changé avec le temps. Si je me souviens dans ma jeunesse, enfin c'était évidemment le paradis, hein, c'était mieux avant, bien sûr, c'était mieux avant. Mais enfin, on avait, pour venir à la presse, des journaux le matin, je me souviens d'un journal qui s'appelait Libération avant le Libération d'aujourd'hui.
Tu parles d'un autre journal.
D'un autre journal.
Qui portait le même titre, c'est tout.
Qui portait le même titre, c'est tout, voilà. Il y avait une presse populaire qui donnait un point de vue chaque matin sur le monde, sur l'actualité, et qui s'adressait à un grand public.
Le principal journal populaire, pendant les belles années, hein, celles où tout allait bien, puisque c'était notre jeunesse, forcément, voilà. Hein, c'était l'Humain. Mmh. Pourquoi l'Humain qui reste un quotidien de qualité.
Oui, hein. Oui, oui.
Vraiment, avec les forces dont ils disposent. Ensuite, on peut discuter leur orientation politique, c'est une autre discussion. Hein. Qui reste un quotidien qui parle de la réalité sociale, qui parle des luttes sociales.
Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ils ont un public quand même très restreint.
Je croyais que tu allais deviner ce que j'allais dire.
Non, non, bah non,
tout simplement parce que le Parti communiste, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, s'est effondré politiquement. C'est-à-dire qu'un média ne peut porter une parole populaire et réverbérer en quelque sorte la parole de ceux d'en bas, sans, pas simplement en leur passant le micro, hein, mais en leur donnant de quoi comprendre leur propre situation, en partant de la façon dont ils vivent leur propre situation, ils ne le peuvent que dans la mesure où le contexte politique et social global le permet.
On va conclure provisoirement, au bout de 20 ans d'Acrimed, ce que tu dis, c'est ben, finalement, les médias ne peuvent pas tout, les médias accompagnent.
Et confortent.
Et confortent ou marginalisent. Et c'est beaucoup, et c'est tout.
Enfin, ça met le doigt sur une chose. Ça met le doigt sur le fait que les médias peuvent faire autrement et faire mieux, à condition que l'ensemble de l'espace médiatique soit transformé. Ça, c'est un combat politique. C'est à intégrer à ce qu'on appelait jadis les programmes, disons les projets, des forces associatives, syndicales et politiques, qui font de la question des médias une question qui n'est peut-être pas la question prioritaire en tout, mais une question politique effective. Or, de quoi souffrons-nous? De quoi souffre Acrimed depuis sa création, d'ailleurs? C'est, pour une part, on va dire, c'est notre responsabilité. Bien, c'est de ne pas être parvenu à faire de cette question une question politique effective dont s'emparent les forces sociales et politiques qui y sont intéressées. On a fait ce qu'on a pu. Déjà, notre principal mérite, c'est d'avoir résisté au point où nous en sommes. Bien, résister et se renforcer. Et en plus, quand il y aura toute cette campagne d'adhésion que j'évoquais
c'est tout à l'heure. Votre fortune est faite.
Notre fortune, bon. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Évidemment, le compte n'y est pas. On en est parfaitement conscient. Et donc, on poursuit le combat.
Merci Henri Mahler. Acrimed, merci.
Le FN fait-il vraiment plier les médias?
Le supplément.
Les médias font-ils le jeu de l'extrême droite?
Canal Plus.
Un débat dans toutes les rédactions françaises.
8 novembre 2015.
En Belgique, on a résolu le problème depuis bien longtemps. Ici, l'extrême droite est interdite de direct depuis 1991. Un traitement radical pour éviter d'éventuels dérapages.
Vous arriveriez à débattre avec Marine Le Pen?
Ouais, en direct ou alors...
Dieu m'en garde, Dieu m'en garde.
Un front contre l'extrême droite. Télé publique et télé privée, main dans la main, dans ce combat.
Le cordon sanitaire a certainement participé à l'absence de décollage, l'absence d'aura, l'absence de culte de la personnalité, l'absence de curiosité autour des membres de l'extrême droite. En tout cas, elle n'a pas donné le vecteur d'écho dont l'extrême droite a tellement besoin à son démarrage.
Je vous remercie, mesdames et messieurs.